C'est la dernière journée. Il faut bien qu'un terme. Alors, comme c'est la dernière journée, que nous avançons lentement, j'ai envie, ce matin, de vous donner les différents points, les différentes dimensions de la personne humaine. Parce que la personne humaine est une synthèse. C'est le comment de notre vie. Comment vivre comme une personne humaine. C'est pas si commode. Et c'est une question très importante pour nous. Alors, nous avons vu, premier point, première dimension, c'est comme les dimensions de la personne, les différents points. Nous avons vu cette autonomie qui repose sur l'âme. Nous avons chacun d'entre nous une âme qui nous rend autonome. Cette âme est une âme spirituelle, l'intelligence, colonne vertébrale qui nous permet d'être debout, la volonté et l'amour, capacité d'aimer, qui met le dynamisme en nous, qui nous met cette force d'aller toujours de l'avant, et ne pas s'arrêter. On progresse tout le temps dans notre personne humaine. Celui qui dit « je m'arrête maintenant parce que je suis assez développé », ça pour qui n'a pas compris. Développement de l'intelligence est incessant. Vous voyez, alors, c'est pour ça quand on parle de la personne, vous voyez, pensez en image à une grande montée, l'Everest, pas le Mont Blanc, c'est pour les moutons, l'Everest. Alors, on est arrivé à 1000 mètres, on s'assied, on regarde, on arrive à 2000 mètres, on s'assied, on regarde. C'est toujours le même paysage. Mais chaque fois, il est vu différemment. Alors c'est sûr que la personne humaine, pour quelqu'un de 30 ans, pour quelqu'un de 40 ans, pour quelqu'un de 50 ans, 70 ans, 80, 90, 100. C'est toujours le même paysage. C'est toujours le même paysage. On retrouve toujours ces sept dimensions. Et le caractère propre de notre personne, ce sera la manière dont on harmonise, dont on synthétise ces sept dimensions. C'est curieux que ce soit sept dimensions. Et croyez bien que je n'ai pas du tout, ben j'avais ça en tête de dire le chiffre 7, ça doit arriver nécessairement. Non. Donc, je reprends l'autonomie fondamentale, substantielle, l'intelligence, l'amour. Vient après ce que nous connaissons beaucoup mieux. C'est pour ça que j'ai insisté beaucoup sur le point de départ, parce qu'on ne le voit pas beaucoup. Psychologiquement, ça ne se voit pas beaucoup. Quatrième banc, c'est la prudence. Notre petite sagesse pratique. prudence, nous savons à peu près ce que c'est. Nous savons si nous sommes un homme prudent, si nous sommes un homme passionné ou une femme passionnée, qui manque de prudence, qui se laisse prendre, qui s'enflamme très vite. La prudence est nécessaire pour l'homme, pour la prudence, pour la personne. La prudence est un élément essentiel à la personne. Savoir organiser notre esprit de conquête, notre esprit de domination. On a tous en nous un certain esprit de domination. On va au moins dominer nos forces passionnelles par la prudence. Nos forces passionnelles sur nous. On est un petit bateau avec des forces. Et sur les autres, ceux qui sont auprès de nous. Et la prudence, elle varie. La prudence d'un homme de 30 ans, d'un jeune homme de 30 ans, la prudence d'une jeune fille de 30 ans, la prudence de l'homme de 40 ans, ou 20, on pourrait mettre 20 et 30, hein, c'est déjà très différent. On sait bien, parce que vous l'avez vécu, ça. Non, c'est très bien. Et quand on avance, ça change toujours. Et c'est pour ça que c'est toujours cette comparaison que vous donne quand on gravit une montagne. Et on gravit une montagne, humainement, on gravit une montagne, jusqu'au moment où on se met à décliner. On ne monte plus. On décline. Et dès qu'on décline, ça peut aller très vite. Et je mets des arrêts dans la montée. Et quand on décline, il n'y a pas d'arrêt. On décline. Et plus on est monté haut, plus les chutes sont rapides. Ce conseil que m'avait donné un médecin, je le prenais comme dans la vision justement de la personne. Vous arrivez à un âge où ce que vous abandonnez, vous ne le reprendrez plus. On est fatigué, alors on arrête, on fera moins, on restera là. Quand on est jeune, on peut s'arrêter, on est fatigué, on s'arrête. Les vacances, vite, on a joint. Alors, on dort bien pendant 8 jours, on peut recommencer, on peut repartir avec un élan. On ne peut plus faire ça. Ah, ça, c'est la prudence, qui sait évaluer ses forces, qui sait évaluer ses faiblesses. On sait qu'on a un concupiscible extrêmement fort. Les petits gâteaux au chocolat. Un concupiscible extrêmement fort. Et un peu comme l'abeille qui aime le miel, mais ses pattes se prennent dans le miel. Vous avez déjà vu ça, c'est très curieux à regarder et faire la comparaison. On s'englue dans la concupiscence, le bien sensible, les bien sensibles. Et c'est très varié. Hein. Chacun d'entre vous, vous avez votre faiblesse. On l'a tous, hein. Je l'ai aussi. Mais celle du vieillard, elle n'est pas la même que la concupiscence du jeune de 30 ans. C'est très curieux, très étonnant, ça. Et ça, ça fait partie de la personne. Oui. L'éveil de tout ça fait partie de la personne. La taille, la mobilisation, corriger son concupiscible, arriver à le dominer, c'est pas si commode que ça, et bien sensible, et bien du concupiscible. Qui sont les biens du boire et du manger, qui sont les biens, se sentir bien, on se repose, on dort. Et plus avance, plus, encore plus profondément, les biens du concupiscible, au point de vue de la concupiscence de la chair, au point de vue de la chasteté. Tout ça, ça fait partie de notre personne. Est-ce qu'on arrive à dominer jusqu'à un certain point nos passions? Et la personne, dans sa prudence, doit connaître ses passions. Je vous ai parlé de l'irascible. Et c'est vrai que certains, à partir de 30 ans, ont un irascible effrayant. On appuie sur un bouton, boum, c'est du champagne. Et là, et le bouchon fait plus de mal que le champagne. Ça part à toute vitesse. Je ne cite pas de nom, hein, mais tout le monde connaît dans sa vie un certain type d'homme ou de femme. L'irascible féminin n'est pas commode. Connaissant, et on sait que c'est dangereux. Quand il fait chaud, ça sort plus vite. Les pays nordiques, ça sort moins vite, mais ça cuve. Et quand ça sort bien. Tout ça fait partie de la personne, hein. On le connaît très bien, c'est pour ça que je ne le prends qu'après. Et c'est la prudence qui arrive à diriger cette petite barque. Où on sait que le concupiscible fait qu'on aime de s'arrêter. Quand on voit dans un... Ça arrive quelquefois quand on est invité avec telle personne d'aller dans un restaurant bien connu. De voir, ça me fait toujours beaucoup de peine, ça, de voir un monsieur âgé, 60-70 ans, seul, à table, à un bon restaurant. Il savoure son repas, c'est sa petite joie. Il est seul. Et c'est un peu terrible, hein, parce qu'on a l'impression que il est là, c'est sa seule joie. Il s'arrête là. Puis c'est terminé, forcément. Un bon repas, ça se termine. L'irascible, le concupiscible, demande d'être dominé par la prudence. C'est notre prudence, notre petite sagesse pratique qui arrive à dominer le concupiscible irascible, les deux grandes passions. À côté de la prudence, il y a tout ce qui relève de l'activité du travailleur. Tout homme qui est une personne, toute femme qui est une personne, il faut cette dimension du travailleur. On n'est pas un homme, une personne, si le travail nous est inconnu. C'est très varié, hein. Ça va jusqu'au travail de la danseuse. C'est assez spécial. Je me souviens avoir connu, ça a fait parler du reste beaucoup, je la connaissais bien, cette danseuse bien lancée qui était entrée au Carmel. C'est pas commode, c'est pas une préparation directe du Carmel. Il est sûr que le travailleur conscient, l'artiste est aussi un travailleur, et le véritable artiste sait ce que c'est que le travail, et la danseuse sait ce que c'est que le travail. Je me souviens, c'était la réflexion de cette petite danseuse qui s'était fait carmélite. Elle m'a dit, la cesse du Carmel n'est rien à côté de la cesse que j'ai vécue pour arriver à être première. Le travail fait partie de la personne humaine. L'homme est taillé pour être un travailleur. Vous voyez ? Alors, comptez les dimensions, hein ? L'autonomie, l'intelligence, la volonté, la prudence, l'art. Et il est bien évident qu'un grand artiste, on est tous un petit artiste, hein. On a tous. Et très vite, l'enfant pense à ça. Moi, ça m'intéresse toujours beaucoup de voir les enfants dans les plages, pendant que tout le monde est en train de se baigner tout le temps. Eux construisent leur petit château, leur petite maison avec les sables. Ils sont architectes. Ils sont des petits artistes qui commencent. Pour Aristote, l'art, le facere, le faire, c'est la première activité humaine. Et l'éducation commence par ça. Il ne faut pas brimer, il faut éduquer. Et c'est très important. Et on a oublié ça dans l'éducation morale. Avec le XVIe et le XVIIe siècle, on a moralisé, exactement comme Israël a moralisé autour de la loi de Moïse. On retombe toujours dans ce moralisé, et on croit que la morale est supérieure à tout. Non, il y a la morale et l'art. Un homme qui ne saurait pas travailler comme artiste, comme artisan, comme artiste, grandement comme artisan, à sa manière, ou travaille, même travaille en usine, dans la mesure où ça reste du travail, le travail humain, ça fait partie de la personne humaine. Et il ne faut pas le mépriser, hein. Il est bien évident que l'artiste est un type très particulier de personne humaine. On a tous connu dans sa vie des artistes. Je connaissais très bien les nièces de Rouault. Et à Paris, Rouault le peintre. Alors, je leur avais dit, j'aimerais beaucoup de connaître votre oncle, de pouvoir lui parler. Puisque Rouault est un artiste, c'est un breton. C'est un artiste qui sait ce que c'est. Alors elle m'avait dit, c'est pas très commode, mais on vous dira. Parce qu'il n'aime pas beaucoup les curés. Il les aime, hein, puisqu'il était croyant, Rouault. Des bretons. J'ai vu, on n'entrait pas dans son, là où il travaillait, c'était son sanctuaire. Jamais, jamais, personne. C'était vraiment son sanctuaire, le lieu où il priait et il méditait et il payait. Il y avait le travailleur qui savait ce que c'est que le travail. Il ne faut pas jamais oublier que Rouault, à un moment donné de sa vie, dans son évolution de personne, d'artiste, a brûlé 30 de ses tableaux. Ça, c'est un sacré caractère. 30 de ses tableaux. Il était comme ça, Rouault. Quand il était quelquefois invité chez telle ou telle personne, et que cette personne lui montrait, voyez, j'ai un tableau de vous. Alors il a regardé, oh non, il n'est pas de moi, celui-là. Oh, c'était quand j'étais jeune. Oh non, je vais le brûler. Alors la personne était folle. C'était authentique, ça. Ça s'est passé comme ça. Et je sais qu'un jour, il a brûlé 30 de ses tableaux. C'est sa nièce qui m'a raconté ça. Ça n'est pas vanté, c'est sûr. Parce que ça ne lui plaisait plus. C'était plus ce qu'il voulait. C'était dans sa jeunesse. Et dans sa jeunesse, Rouault avait beaucoup de peine, ses tableaux ne se vendaient pas, il les gardait. Disons. Et puis comme ça, elle ne lui plaisait plus. Ça, c'est tout à fait artiste. Ce n'est plus moi. Il a une liberté, l'artiste. Je me souviens aussi, la personne d'un artiste est quand même quelque chose de tellement particulier. Je me souviens, parce que c'était vécu. C'était à Genève, un sculpteur que j'aimais beaucoup. Alors, il m'avait invité d'aller avec lui, parce qu'il était lui-même invité par la faculté d'aller avec lui. C'était surtout la guerre, la dernière guerre, à Athènes. Alors, il était désolé à Athènes de ne pas rencontrer le type grec. Il rencontrait le type européen. Ça l'intéressait beaucoup moins. Alors, il m'avait dit un jour, partons dans les îles. Il paraît que là, il y a encore le type grec. Alors, je suis parti avec lui. Je n'avais pas la même liberté étant en dominicain que lui, avec son costume d'artiste. Puis tout d'un coup, je reçois un coup dans l'estomac. C'était mon artiste. Regardez, il y avait une grecque, une jeune fille, je ne sais pas, 30 ans, 20 ans, qui avait évidemment le type grec merveilleux, Alors, en sculpteur, il la regardait jusqu'à l'intimider, parce que c'était une déesse qui descendait du ciel, mais elle ne descendait pas du ciel. Regardez ce type. Alors moi, c'était plus gênant. L'artiste, cette espèce de liberté de l'artiste qu'on comprend souvent très mal, liberté, et en même temps un artiste, un véritable artiste, ah, il a son assaise extrêmement rigoureuse. C'est un type de personne très particulier, un type d'homme. Et tout est commandé par l'art. Alors ça ne va pas jusqu'au bout, ça ne va pas jusqu'à la contemplation de Dieu, mais ça y mène la voie véritable de la beauté. Et c'est grand, et c'est très beau. Je crois qu'il faut maintenir le facere, le faire. L'homme est un travailleur. Et un véritable artiste est un travailleur. Il n'est pas déformé par le travail d'usine. Le travail d'usine a déformé le travailleur. Il en a fait un syndical, le syndicat. C'est la déformation du travailleur. Parce qu'on n'aime plus ce qu'on fait. C'est ça qui est terrible dans une usine. Je sais qu'on lutte contre ça, et on essaie par tous les moyens de refaire que ce travail qui n'est pas agréable soit un travail vrai, humain. Le travail humain doit être quelque chose qu'on aime. Et le travail en usine, on est obligé de le faire pour gagner sa croûte. Or, le travail doit être aimé pour lui-même et pas être aimé pour l'argent. Quand le travail est aimé pour l'argent, il se dégrade, il n'est plus personnel. Et à partir de ce moment-là, il devient le travail d'un individu, d'un numéro. Il faut qu'il travaille. Et il n'y a plus cette dimension vraie du développement de la personne humaine, du facere, le faire. Réaliser quelque chose. Il y a un travail intellectuel, c'est encore un travail. La recherche philosophique, la recherche médicale, c'est du facere. Et la première fois qu'on réalise quelque chose, un petit travail. On a écrit un petit article. On a voulu dire ce qu'on pensait sur quelque chose. Ça fait partie de la personne, ça. Alors, voyez, cinquième dimension. La prudence et le travail. Et le facere, l'artiste. L'homme prudent, c'est aussi un type particulier de personne. Prudence humaine politique. Quand on doit voter, on devrait juger sur les candidats pour voir s'ils ont la prudence politique. parce qu'on doit être gouverné par des personnes et non pas des partis, par des personnes qui ont l'amour de l'homme pour l'aider dans son travail, pour l'aider à vivre par son travail. Il doit avoir ce souci-là. Et il y a un type humain particulier de la personne et de l'artiste, très différent. Et au fond, on porte en nous-mêmes toujours un petit artiste. On porte en nous-mêmes un homme prudent. Prudent pour soi, prudent pour les autres. Mais ça ne finalise pas la vie. Ma vie est finalisée par l'amitié. Elle n'est pas finalisée par le facere, par le faire. Faire quelque chose, travailler. Je ne suis pas finalisé par mon travail. Mais mon travail me permet de sortir de moi, de réaliser quelque chose. On a en soi le besoin de réaliser quelque chose. Et c'est pour ça que ça fait partie de l'éducation. D'essayer non seulement d'apprendre un métier, mais aussi de pouvoir réaliser quelque chose dans l'ordre de l'art. Et la dernière, le dernière note de la personne, non, l'avant-dernière, la sixième, c'est le corps humain. Le corps humain fait partie de ma personne. Substantiellement, je ne peux pas être une personne sans connaître mon corps, sans le respecter. La dignité du corps humain. Le corps humain est un élément essentiel. Il est l'instrument, mais un instrument substantiel. C'est très curieux, la situation du corps au point de vue de la personne. Celui qui méprise son corps en ne voulant ne voir que ce qu'il contemple ne peut jamais être vraiment une personne humaine. Il faut aimer son corps. L'aimer comme un compagnon nécessaire, un compagnon essentiel. Notre corps est bon. Il faut l'aimer. Vous savez, un cavalier, quand il aime son cheval, avant de le monter, il le caresse. Et notre corps a besoin, spirituellement, d'être caressé, de l'aimer. Parce qu'il nous rend service, notre corps. On le sait bien, quand on est très très fatigué, on n'arrive plus à faire ce qu'on voudrait. Et il faut pouvoir arriver à faire ce qu'on veut. Alors, avoir vis-à-vis de son corps un amour, mais ne jamais aimer son corps comme une finalité. Le corps n'est pas l'élément essentiel de la personne. Mais il est un instrument substantiel, conjoint. Je ne peux pas être une personne humaine si je brutalise mon corps. Je ne peux pas être une personne humaine si je considère mon corps comme quelque chose que je dois subir. Voyez, les personnes, les handicapés, entendre Jean Vanier qui aime ses handicapés parler du corps, et il parle du corps à ceux qui sont auprès de lui, ses handicapés. C'est très dur, hein, d'avoir un corps qui nous arrête dans nos mouvements, d'avoir un corps que nous portons et qui est un fardeau. Nous portons notre corps quand on est jeune, on lui demande n'importe quoi. Quand on commence à vieillir, on doit faire plus attention. Et quand notre corps est malade, il nous arrête. Notre corps peut devenir, en quelque sorte, le grand obstacle à la personne. Oui. Et il ne doit jamais l'être. Si nous l'aimons, même dans son incapacité, même dans ce fait qui nous limite terriblement, on doit l'aimer. Mais on doit reconnaître que notre corps n'est pas notre fin. Celui qui cherche uniquement à faire que son corps soit un corps d'athlète, au point de vue du jeu de foot, au point de vue du tennis, au point de vue de celui qui aime les courses d'auto. C'est vrai, ça demande une certaine formation, une certaine domination du corps que tout le monde n'a pas, d'être même cosmonaute et d'aller dans la Lune. Ça demande une certaine domination du corps très spéciale. Et les avions très très modernes demandent une domination du corps très particulière. On fait corps, on lui demande des efforts extraordinaires. Les prisonniers de guerre, je me souviens de ce prisonnier de la dernière guerre, me racontant ce qu'il avait subi. Il m'a dit, un animal aurait crevé. On n'aurait pas pu lui demander ce qu'on nous demandait. Et nous, on a tenu. Parce que, par volonté, on a tenu. C'était très beau. Parce qu'on sentait très bien combien il savait que c'était par l'âme, au point de vue moral, au point de vue amour, il avait dépassé tout ce qu'on avait demandé à son corps de subir comme mauvais traitement. Et on dit toujours ça, un animal aurait crevé s'il avait été à notre place. Et on a tenu. senti que l'âme portait le corps, que l'âme portait le corps. J'ai beaucoup, hélas, le corps porte l'âme. Et c'est l'âme qui porte le corps. Et plus on avance, plus l'âme, qui ne vieillit pas, l'âme ne vieillit pas, elle prend toujours, au contraire, plus de force, plus de hauteur, plus de pénétration. Alors, elle peut porter le corps jusqu'à un certain niveau, jusqu'à un certain degré. La maladie arrive, la vieillesse arrive, la mort arrive. La mort, c'est quand l'âme ne peut plus porter le corps. C'est la victoire du corps à la mort. C'est la victoire du corps. Notre corps meurt et il impose sa mort à l'âme. Alors l'âme, notre âme ne meurt jamais. Elle ne connaît pas ce que c'est que la mort. Elle la domine. C'est très important de contrer, de voir la place de notre corps dans notre forme, dans notre manière d'être une personne. Pour chacun d'entre nous, notre corps a une place différente. En raison de notre âge, en raison de l'éducation qu'on a reçue, en raison de l'éducation qu'on se donne. Le corps d'un moine prend une place moins grande que le corps d'une personne mariée. Forcément, ça ne peut pas être autrement. Ou le corps de quelqu'un qui vit dans le monde. Le corps d'un moine, il s'amenuise en fonction de la finalité spirituelle. Pour vous donner un exemple, pour que vous compreniez. Donc, vous voyez, ces six dimensions de la personne. Je les reprends avant de voir la septième. La valeur, l'autonomie. L'autonomie, on la découvre. L'intelligence, la volonté, l'amour, l'amour d'amitié. Au point de vue moral, des vertus. Toutes les vertus, et surtout la vertu de prudence. La vertu de prudence me donne un caractère très particulier. L'art, le travail, le corps, cette alliance substantielle avec mon corps. Je ne l'ai pas choisi, mon corps. Quand on est jeune, on voudrait avoir le corps d'un autre. Ça arrive, ça. On sait que c'est impossible. On n'a pas choisi notre corps. Notre corps dépend de tout l'atavisme de nos parents. Et on apporte tout ça. Et on peut très bien ne pas aimer son corps. Et on doit l'aimer. On doit arriver à l'aimer. Mais l'aimer d'une certaine manière, pas l'aimer d'une façon absolue, comme la faim. Parce qu'il n'y aurait plus de personne devant un homme qui a cultivé uniquement son corps pour en faire le champion du Tour de France, le le champion de toute espèce de sport. Il arrive un moment où, hélas, le corps ne peut plus être le champion. Il vieillit. Et le champion ne vous donne pas une personne. Ça fait qu'on parle beaucoup de vous comme champion, mais pas plus. C'est le champion d'un moment. Et la personne a quelque chose d'éternel. Et c'est vrai, l'individu, si vous regardez que l'individu, il peut être champion. Et peut-être premier dans un ordre matériel. Vous voyez, une culture, quand on voit qu'une culture regarde avant tout le point de vue du corps, c'est une culture qui s'abaisse, qui n'est plus éternelle. Une culture où l'art domine, ah, il y a au moins l'art. Une culture où la prudence domine. Il n'y a pas beaucoup d'hommes prudents au point de vue politique et au point de vue personnel. Une culture où l'amour prend le pas sur tout, dépasse la prudence, dépasse l'art. Une culture où l'intelligence permet de garder notre autonomie. La septième dimension, c'est la découverte de l'existence de Dieu et qui fait qu'il y a une dimension humaine, de prudence humaine du côté religieux. Et c'est une dimension humaine. Quand on veut supprimer cette dimension, c'est ce que on fait quelquefois en France, on voudrait cultiver le patrimoine européen en rejetant toute attitude religieuse. Et ça gagne. C'est une conquête souterraine très forte qui se fait. On ne peut pas effacer de l'homme la dimension religieuse, c'est-à-dire la dépendance dans son autonomie à l'égard de celui qui nous donne l'autonomie, Dieu. Refuser l'adoration comme une dimension personnelle, authentiquement personnelle. On peut très bien ne pas la connaître, mais on n'a pas le droit de la refuser. La refuser volontairement, c'est de fait ne pas accepter une réalité humaine et la plus profonde. Refuser la dimension religieuse en l'identifiant à un aspect confessionnel, chrétien, bouddhiste, musulman, c'est faux. Parce que l'homme est essentiellement religieux. Si il reconnaissait ses origines, il comprendrait cela. Est essentiellement religieux, dépendant de Dieu, dépendant du Créateur. C'est essentiel pour lui. Donc refuser cette dimension religieuse Elle est dernière, elle est ultime, c'est la septième. C'est refuser la véritable autonomie. Nous sommes autonomes parce que c'est Dieu qui a créé notre âme. Si nous n'acceptons pas cela, et on est en train de la refuser, hein, philosophiquement, politiquement, si on refuse cette dimension que notre âme créée par Dieu est directement créée par Dieu, qui fait qu'on a une autonomie radicale à l'égard de toute politique humaine. Il y a quelque chose en nous qui est plus profond, c'est de découvrir cette autonomie que nous donne notre âme dans une dépendance radicale à l'égard de Dieu. C'est la septième dimension, cela. Alors, il y en aurait une huitième, c'est si on est chrétien. Si on est chrétien, ça donne un type particulier à notre personne. Vous voyez, vraiment, le problème de la personne, c'est le problème qui nous aide à comprendre toutes les pointes qui peuvent synthétiser tout ce qu'il y a en nous de richesse et de pauvreté. Et c'est vrai que le chrétien nous fait découvrir un type particulier de personne. On verra ça ce soir. Et il se base sur le point de vue religieux. L'aspect chrétien demeure humain par le point de vue religieux. Si vous supprimez le point de vue religieux du point de vue humain, vous supprimez le point de vue chrétien et vous le considérez comme anormal. Or, on va vers cela. Les forces cachées, souterraines du mal vont vers cela. On voudrait que l'Européen ne puisse plus parler du religieux. Et ça se propage vite. Parce qu'ils veulent dire le religieux, c'est chrétien. Non, pas du tout. Le religieux n'est pas chrétien. C'est une chose différente. Je suis chrétien par la grâce qui me vient du Christ. Tandis que je suis religieux parce que Dieu a créé mon âme. Alors évidemment, il faut supprimer le point de vue de la création. Tant que je découvre la création, je découvre ce point de vue religieux fondamental. C'est la huitième dimension qui n'est plus philosophique, vous voyez. Le philosophe se tait. Et le chrétien parle par la foi. L'intelligence humaine achève son parcours personnel par le point de vue religieux. Et c'est vrai, c'est le point de vue ultime. On peut très bien être une personne humaine sans le point de vue religieux. C'est ça qui est terrible. Mais on ne l'est pas complètement. On l'est momentanément. Et on peut être très brillant, extraordinairement brillant. Mais ça ne dure pas. parce que tôt ou tard, le point de vue religieux réapparaît. Il est fondamental. Mais il est ultime. Évidemment, quand on vit une vie de chrétien dans une chrétienté, le point de vue religieux apparaît très vite. Un petit enfant qui naît dans une famille chrétienne, la prière est essentielle. Donc le point de vue religieux apparaît très vite. Mais en réalité, c'est le point de vue ultime et dernier. Et il faut chacun redécouvrir ça. Il est premier et dernier, l'alpha et l'oméga, c'est le point de vue religieux, qui enveloppe tout. Et c'est très important de voir qu'avant cela, je puis très bien regarder ma dépendance à l'égard de la société, à l'égard du point de vue politique, à l'égard de mon corps, à l'égard de ma famille, je vois cette dépendance. Mais ma dépendance radicale, c'est à l'égard de Dieu. Et celle-là, je la découvre en dernier lieu.